Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, recomposition politique, le grand chassé-croisé. La gauche, la droite, souvenez-vous, c'est sur cet axe binaire que s'organisait autrefois le paysage politique français. Vous n'étiez pas du premier camp, c'est donc que vous apparteniez au second. Le vote était à l'image du travail, quand on en choisissait un, c'était pour la vie. Et puis est arrivé le grand chambardement illustré par la présidentielle de 2017. Une remise en cause des principaux clivages par un candidat président se revendiquant ni de droite ni de gauche et une majorité d'électeurs pour le suivre dans cette voie. Premier dynamitage. Le deuxième vient d'avoir lieu. Les européennes apparaissent comme l'acte 2 d'un mouvement de recomposition sans doute encore loin d'être achevé. Désormais, c'est entre La République En Marche et le Rassemblement National que se joue la première place. Les écologistes se retrouvent en position d'arbitrer. La gauche ne parvient toujours pas à recoller les morceaux. La droite est en piteux état, réduite à peu de choses suite à un spectaculaire phénomène de transhumance de ses électeurs. Recomposition politique, est-ce le grand chassé-croisé ? Eh bien, c'est le thème de notre club des idées de la semaine en compagnie de deux de ses membres. Nous sommes toujours en direct du bar Le Bel Air à Radio France, en compagnie donc de Géraldine Mühlmann. Bonsoir.
Bonsoir, Eric Garvet.
Professeur de sciences politiques et de philosophie à l'Université Paris 2. Bonsoir, Coralie Delhomme.
Bonsoir.
Vous êtes essayiste et on peut vous retrouver régulièrement sur la chaîne Polonie TV. Et puis, notre invité cette semaine vient tout droit de France Culture, de son service politique qu'il dirige, c'est Stéphane Robert. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir.
Et c'est à vous que je vais poser la première question, question d'ordre général. Est-ce que vous diriez qu'avec le résultat des européennes, alors ce soir on va essentiellement s'intéresser au paysage politique français, vous l'aurez compris, est-ce que vous diriez qu'avec ce résultat des européennes, on a une photographie assez fidèle de ce qu'est la diversité du monde politique français et des différents clivages qui le composent, ou bien est-ce que cette élection est tellement particulière ? Il faut rappeler que c'est une élection au suffrage à la proportionnelle qu'on ne peut peut-être pas non plus en tirer des conclusions trop définitives.
Alors c'est une élection très particulière puisque c'est à un seul tour, c'est à la proportionnelle. Et puis on sait que c'est une élection où il n'y a pas d'enjeu, enfin l'enjeu de pouvoir apparaît beaucoup moins important que pour une élection présidentielle. Du coup, les électeurs se sentent a priori beaucoup plus libres de voter un peu ce qu'ils veulent en fonction de l'offre qui leur est proposée, beaucoup plus qu'à la présidentielle, où il y a traditionnellement un vote utile qui s'exprime. Pour ces élections européennes, il y a malgré ça, un vote utile qui s'est exprimé. Et en ça, la réponse à votre question, c'est oui, c'est particulier, mais oui, ça dessine quelque chose, ça commence à dessiner quelque chose qui nous dit quelque chose de l'espace politique français tel qu'il s'organise aujourd'hui, en ce sens que ça confirme ce qui s'est passé il y a 2 ans. On a une bipolarisation de la vie politique française qui s'organise entre En Marche, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, le Rassemblement National. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vécu il y a 2 ans et qui est confirmé par cette élection très particulière qui pourtant ne pourrait a priori moins le confirmer que les autres. Et donc, effectivement, le clivage droite-gauche il disparaît pas complètement, mais il est concurrencé et remis en question.
Le fait qu'il y ait cette confirmation, effectivement, en tout cas s'agissant des deux premières places de ce duel de 2017 entre, d'une part, La République En Marche, de l'autre, le Rassemblement National, Coralie Delhomme, est-ce que vous diriez, comme Stéphane Robert, que ça fait de cette élection particulière une élection pas si particulière que ça, en tout cas, qui vient, asseoir un petit peu le paysage politique qu'on l'a vu apparaître il y a 2 ans?
Oui, ça l'assoit, en effet, avec cette bipolarisation qui a d'ailleurs été voulue par Macron, et on l'a vu par le fait même qu'il s'est engagé lui-même dans la campagne avec des affiches où on voyait Macron lui-même, etc. Donc il l'a voulu, cette bipolarisation, sachant que ça lui garantit la pérennité pendant un certain temps, en tout cas dans la mesure où le Front National a tendance à capter à lui un certain nombre d'électeurs des milieux populaires, et le fait qu'il ait emprisonné en fait une certaine frange de l'électorat fait que toute autre recomposition est rendue très difficile. En plus, Macron a réussi, alors dans un premier temps il a commencé à la présidentielle par capter à lui des gens qui venaient plutôt du vote socialiste, du fait qu'il avait été ministre de François Hollande. Et puis là, il s'est passé un petit peu l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont considéré qu'il était finalement ni de droite ni de gauche, mais surtout ni de gauche, en fait, donc de droite, et qui se sont déportés vers le vote écologiste. Et puis, il y a un certain nombre d'électeurs de droite qui, au contraire, ont considéré qu'il avait fait le job, entre guillemets, pendant les Gilets jaunes, c'est-à-dire qu'il n'a il a pas hésité à réprimer, il fait des réformes fiscales qui peuvent, dans une certaine mesure, convenir à des électeurs de droite, et une certaine droite des valeurs a dû se dire à un moment, ben, on va choisir comme valeur prioritaire la valeur du portefeuille boursier, et on va voter pour le candidat de l'ordre qui est Emmanuel Macron.
Est-ce que vous êtes d'accord avec cette première analyse, là, Géraldine Mulman?
Oui, même si je dirais que je la reprendrais en la durcissant un peu. Je pense que les chiffres, enfin, je veux dire, la rendre un peu, enfin, en essayant de dire qu'il y a un changement quand même assez net. Même si Emmanuel Macron fait un chiffre qui ressemble à son socle électoral du premier tour de la présidentielle. Finalement, Marine Le Pen aussi, on pourrait dire que c'est la même chose et les choses ne changent qu'autour d'eux. Je crois tout de même qu'en ce qui concerne Emmanuel Macron, et la liste qu'il a explicitement soutenue, c'est pour ça qu'on peut le nommer aussi clairement, hein, il était vraiment derrière cette liste, ce qui est inédit dans l'histoire de la Ve République. Enfin, on n'avait jamais eu un président qui s'était engagé de manière aussi claire. Je pense que son image a changé, que la couleur politique de En Marche a changé assez nettement depuis 2 ans. C'était effectivement au départ, en tout cas beaucoup de gens y ont cru, moi j'ai toujours dit que j'étais très sceptique, mais que c'était un courant avec deux jambes, en même temps s'entendait, parce que même s'il avait clairement des aspects libéraux, forts sur le plan pas seulement politico-juridique, mœurs, mais aussi sur le plan économique, il venait du sérail de François Hollande. Donc il y a quand même beaucoup de gens qui faisaient partie, disons, du Parti social, des sympathisants socialistes qui ont voté pour lui, en se doutant bien que c'était pas un frondeur, mais enfin, que c'était tout de même quelqu'un qui avait les habitus du socialisme français, alors peut-être de moins en moins à gauche, hein, ça c'est historiquement vrai, mais enfin, il y avait encore un certain nombre de choses de ce côté-là. Et je crois que 2 ans après, la nature de sa politique, le comportement dans les mouvements sociaux, la campagne elle-même, les gens qui votent aujourd'hui pour Emmanuel Macron ont bien conscience qu'ils ne votent plus pour quelqu'un qui ressemble à l'ancien PS. C'est autre chose qui s'est passé. Et ça me paraît un changement très important parce que, à l'inverse, on n'a pas eu, je dirais, un mouvement de gauche, que ce soit le Parti Socialiste ou autre, parce que moi je ne crois pas que le vote écolo soit lisible, je vous le dis franchement, je ne crois pas qu'il soit lisible, il y a trop de gens là-dedans.
Vote écolo.
On n'a pas une force de gauche qui serait exactement le pendant de ce déplacement vers la droite de la figure d'Emmanuel Macron.
Donc, un des premiers enseignements que vous notez, Géraldine Mulman, ce serait le fait finalement que ces élections européennes actent peut-être forme de rupture du macronisme avec la gauche qui a contribué à le porter au pouvoir en 2017. Vous voyez ça aussi, vous, Stéphane Robert ?
Mais si vous voulez, notre système institutionnel et électoral organise la vie politique française en un duopole, une bipolarisation. Il y a une bipolarisation qui s'exprimait auparavant avec la gauche, la droite, avec un parti majoritaire à gauche, le PS, c'était le parti de gouvernement, et puis à droite, c'était le RPR en son temps, ensuite l'UMP, maintenant les Républicains. Et on avait déjà au sein de ces formations politiques, on avait des courants au sein du PS, et puis on avait des gens au sein de LR qui étaient plutôt de la droite centriste, d'autres plutôt d'une droite un peu plus radicale.
La droite Trocadéro, voilà, comme en parlait Édouard Philippe il n'y a pas longtemps.
Autour de ça, il y avait d'autres formations politiques, l'UDI par exemple pour la droite, il y avait les communistes avec la gauche, et puis éventuellement Nouvelle Donne, enfin d'autres formations qui venaient s'agréger comme ça, et ça faisait, et on avait une bipolarisation qui s'organisait comme ça, avec potentiellement donc un parti qui prenait le pouvoir, qui l'exerçait, et puis un parti d'alternance potentielle si ça allait pas, et c'est lui qui venait au pouvoir par la suite. Et là, en très peu de temps, en 2 ans, 3 ans, ce qui est arrivé, c'est que la bipolarisation, elle a changé d'âne, en quelque sorte. Si vous voulez, on est passé de le parti qui agrège autour de lui le parti central d'Emmanuel Macron, qui se dit ni de droite ni de gauche, et Marine Le Pen, qui, de la même manière, se dit ni de droite ni de gauche, petit à petit, a tendance à agréger autour d'elle un vote souverainiste, populiste.
Oui, parce qu'il faut peut-être pas non plus oublier Marine Le Pen, son parti le Rassemblement National, c'est ce parti-là qui remporte ces élections européennes, comme il l'avait fait déjà il y a 5 ans. Quelle part on peut attribuer justement au Rassemblement National dans cette nouvelle bipolarisation pour vous, Stéphane Robert ? Parce que certes, Emmanuel Macron est habile, mais enfin, on peut pas à soi seul recomposer entièrement le paysage politique. Il faut bien qu'il y ait une offre alternative. que représente peut-être justement le Rassemblement national, et puis que ça réponde aussi à des attentes des électeurs.
Il sent encore un peu le souffre, hein, le Front National, quand même. C'est pour ça que, et je pense qu'Emmanuel Macron joue un peu là-dessus, parce que potentiellement, pour qu'il arrive au pouvoir, il va peut-être se passer un petit moment, potentiellement, évidemment, on ne sait pas ce qui va se passer par la suite, mais le Front National a organisé petit à petit...
Le
Rassemblement National, petit à petit, a organisé sa dédiabolisation, qui est initiée très très tôt, au lendemain de Jean-Marie Le Pen au second tour de la présidentielle. Il y a les jeunes du Front, dont fait partie Marine Le Pen, qui disent c'est pas possible, il faut qu'on dédiabolise ce parti. Et donc il organise ça petit à petit, et ça rentre dans l'esprit des électeurs, et il vient chercher des électeurs potentiellement, il devient plus un parti systématiquement libéral. Il est libéral avec les gens historiquement d'extrême droite du Sud, et puis il est beaucoup plus social avec les gens potentiellement issus des classes populaires qui peuvent voter pour lui, qui sont du nord de la France. Si vous voyez les cartes où on vote beaucoup Rassemblement National, c'est le nord de la France et le Sud-Est.
Corley Delhomme, qu'est-ce que ces élections européennes disent de la place du Rassemblement National aujourd'hui dans le paysage politique français? Deuxième victoire consécutive aux européennes, au second tour deux fois en 2002, puis plus récemment bien sûr en 2017. Est-ce que c'est un parti qui est durablement installé et qui peut aussi devenir une alternative, puisque c'est aussi comme ça que le combat est présenté aujourd'hui?
D'abord, je pense pas que ce soit un triomphe pour le Rassemblement National. Il a perdu quelque chose comme 2 millions de voix, donc c'est pas extraordinaire. Bon, il arrive premier.
C'est un triomphe pour personne.
Par rapport à la présidentielle.
Par rapport à la présidentielle, oui, les pertes de voix. Parce que par rapport aux européennes, vu que la participation était plus importante, il a plutôt gagné.
Oui. Mais c'est pas non plus un triomphe. Enfin, moi, je m'attendais à ce que Emmanuel Macron soit beaucoup loin derrière. En réalité, ça se talonne, quoi. Et le Rassemblement National, oui, ce qui vient d'être dit est vrai, c'est-à-dire qu'il y a un espèce de double discours chez eux, c'est-à-dire un discours qui est essentiellement identitaire et libéral, destiné à une frange de leur électorat, et destiné à l'électorat ouvrier, un discours qui est davantage souverainiste et social. Et l'émergence du second a été permis, à mon avis, par tout ce qu'a fait Florian Philippot quand il était encore à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il a injecté, il est allé nidifier dans ce parti avec ses idées, il y a injecté de la question de la souveraineté nationale, il y a injecté énormément de social, et un certain électorat anciennement de gauche, a pu se reconnaître dans ce discours. Après, en ce moment, le Rassemblement National est en train de redevenir sur ses errements libéraux, ne serait-ce que sur la question européenne, par exemple. Ils ont mis beaucoup d'eau dans leur vin. Ils sont plus si souverainistes que ça, en réalité. Mais pour l'instant, les gens sont restés sur l'idée que ça demeurait un discours social, et ça va être assez difficile de faire changer l'opinion des électeurs qui sont maintenant captifs, hein, qui ont maintenant un vote d'adhésion au profit du Front National.
Voilà, parce que c'est peut-être ça aussi que qu'entérine ces élections européennes, c'est que le vote pour le Rassemblement National n'est plus seulement un vote de contestation, mais aussi un vote d'adhésion, Géraldine Mühlmann.
À force, oui, je pense que... De toute façon, c'est toujours un jugement qu'on émet sur les électeurs, de dire « Ah, c'est de la contestation, c'est pas de l'adhésion ». Là aussi, ce sont des évaluations qualitatives. Il faut discuter avec les gens, et c'est souvent assez difficile, hein, quand on discute avec eux dans les enquêtes, quand il m'arrive de lire des choses plus qualitatives que quantitatives. C'est pas si simple de faire la distinction entre contestation et adhésion. Sur le long terme, c'est vrai qu'à ces scores-là, que je trouve... tout de même confirmé, fort, même si c'est pas le triomphe, forcément, c'est difficile de dire c'est que la contestation, c'est plus l'adhésion. Il y a un vrai fond électoral solide pour Marine Le Pen. Je pense qu'il y a deux points qui font que c'est tout de même un vote très fort, et pas seulement sur le plan quantitatif. Premièrement, c'est un vote qui est incroyablement légitimé au niveau mondial et européen. Je trouve que ce qui s'est passé à Milan avant l'élection, Milan, je rappelle quand même, capitale historique du fascisme, c'était un centenaire presque au mois près, hein, du mouvement fasciste, autour de Matteo Salvini, qui obtient des scores. Alors là, pour le coup, ce sont des triomphes en Italie. Et Marine Le Pen, rappelez-vous, était vraiment à côté de lui, sur la tribune, parlant italien, de tous les... Je sais bien que l'extrême droite européenne est divisée sur plein de choses, mais enfin, elle avait une présence considérable. Je crois qu'on peut dire qu'il y a une légitimation du personnage de Marine Le Pen qui s'est nettement accrue. C'est pas seulement une dédiabolisation. Donc voilà. Et la deuxième chose, c'est que c'est un vote qui est quand même assez populaire, d'autant qu'on n'a pas de grands partis populaires touchant les classes populaires alternatives en ce moment, dont on puisse dire voilà, les classes populaires qui ont de la souffrance sociale, ça, elles vont spontanément là ou là ou là. Là, c'est un vote qui touche bien, aussi bien dans toutes les classes d'âge d'ailleurs, des milieux populaires, si bien que je dis tout cela avec un fond d'inquiétude très fort, c'est qu'on va se retrouver bientôt avec un parti des classes aisées, dans la bipolarisation que vous décriviez, qui est celui de En Marche, et je caricature un peu, mais il y a du vrai dans ce que je dis, me semble-t-il. Et en face, un parti des classes populaires, ce que je trouve à peu près le cauchemar démocratique par essence. C'est le néant de la pluralisation des opinions, des échanges. C'est vraiment une bipolarisation sociale, presque de classe sociale, encore une fois, qui n'est pas une bonne nouvelle.
Stéphane Robert ?
Oui. Je pense que ce qu'il faut voir quand même, c'est pourquoi est-ce que Jean-Luc Mélenchon arrive à presque 20% en 2017 à la présidentielle, au premier tour de la présidentielle. Mais c'est parce qu'il arrive à capter une partie de ce vote populaire. Et le vote populaire, il est pas forcément de droite ou de gauche. Le clivage droite-gauche, il est très pertinent dans une partie de la population qui s'intéresse à la vie politique. Qui effectivement, enfin, il y a une grande partie de la population qui a des revendications, ils savent pas trop s'ils sont de droite ou de gauche. Et finalement, on arrive à les capter à partir du moment où on a un discours populiste comme ça, souverainiste comme ça. Mélenchon a eu ce discours-là en 2017, il réussit à capter une partie de vote populaire. Pourquoi il finit à 6% aujourd'hui? C'est parce que il a complètement changé de ligne et il s'est mis à vouloir être celui qui allait fédérer les gauches. Et il s'écroule à 6 et quelques pourcents. Il aurait pu, enfin on peut imaginer, je ne sais pas si c'était possible, on va pas refaire l'élection maintenant, mais s'il était resté sur cette lignette, d'ailleurs vous voyez cet après-midi les déclarations d'un de ses lieutenants, Quatennens, il reprend complètement le discours de 2017 en disant « maintenant la ligne c'est souverainiste populiste, droite-gauche on s'en fout ». Comme ce que fait le Rassemblement National, qui finalement arrive à capter cette partie des masses populaires qui se sentent plus représentées par la classe politique actuelle.
Sur cette répartition, on va dire, sociale entre les deux principales formations telles qu'elles émergent, en tout cas à la faveur de ces élections européennes, Coralie Delhomme, vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit?
Oui, par rapport à ce qui a été dit sur le vote France Insoumise, je pense qu'il y a aussi beaucoup de... Dans la mesure où ce sont des européennes, ou ce sont des européennes, pas une présidentielle, et je pense que l'électorat potentiel de la France insoumise a davantage tendance à s'abstenir que l'électorat qui vote LREM ou qui vote ELV. Il y a aussi ça. Et puis, il y a eu toute une série d'événements à la France insoumise qui ont donné aussi une très mauvaise image.
Je comprends pas pourquoi vous dites ça. Excusez-moi, je comprends pas parce que, enfin, moi, je n'ai pas du tout une lecture de la France insoumise comme uniment souverainiste.
Il y a une critique. C'est pas ce que j'ai dit.
Donc, parce que c'est ça qui justifierait qu'ils votent pas pour l'Europe.
Non, je voulais dire que il y a les catégories populaires potentiellement électrices de la France insoumise s'abstiennent plus aux européennes que l'électorat potentiel de LREM, par exemple.
C'est plutôt en raison des origines sociales de ces électorats. C'est ça qui vous fait penser qu'ils votent moins aux européennes. D'accord. Voilà. Excusez-moi, j'avais pas compris la raison de ce vote moindre.
Il y a ça, et puis il y a eu toute la série des événements qui se sont passés autour de la France insoumise. Il y a eu les éructations de Mélenchon quand il a été perquisitionné, qui ont mine de rien beaucoup marqué les esprits, parce que tout le monde en reparle sans cesse, en réalité. Et les journalistes lui posent d'ailleurs la question de s'il regrette. Donc on en revient toujours à ça. Je pense qu'il a mal joué son coup. Et puis, il y a eu les nombreux départs. Il y a eu un certain nombre de personnes qui l'a viré, d'ailleurs de manière assez brutale, sur Twitter ou autre. Tout ça ne donne pas une très bonne image, quand même.
Vous avez évoqué la question de l'abstention. C'est un sujet qui a vite été évacué. Alors, comme assez souvent, d'ailleurs, une fois qu'on a les résultats des élections, mais là encore davantage, puisque ces élections européennes en France se sont caractérisées, et d'ailleurs dans un certain nombre d'autres pays, par une hausse de la participation. Alors, hausse assez conséquente, mais ça laisse quand même une participation à un niveau très faible. Hein. C'est à peine plus de 50% des électeurs. Géraldine Mühlmann, est-ce qu'on n'a pas un peu trop vite évacué cette question, a fortiori après une séquence qui a quand même été longue et qui continue d'ailleurs encore un peu, qui est celle de ce mouvement social des Gilets jaunes? J'ai l'impression que les Gilets jaunes ont totalement disparu. Alors certes, il y avait des listes qui étaient censées les représenter, qui ont fait des scores tout à fait extrêmement faibles. Mais on peut imaginer que les gens qui étaient impliqués ou intéressés par ce mouvement-là, qui a été très populaire quand même à un moment donné, soit ont reporté leur vote sur d'autres listes, soit peut-être ne sont pas allés voter. Est-ce qu'il n'y a pas le risque de faire comme si ce mouvement-là n'avait pas existé?
Oui, alors Il y a deux questions. Les abstentions dans votre question, que je trouve très important, les deux. Les abstentionnistes eux-mêmes, qui sont-ils, etc. Et deuxièmement, le mouvement social. Les Gilets jaunes, comment s'est-il converti? Bon. Je pense que sur le premier point, ce que j'ai lu, qui m'a intéressée, troublée, c'est que dans les zones très abstentionnistes aux élections européennes et aux élections tout court d'ailleurs, certaines zones assez claires, Marine Le Pen a attiré des gens qu'on peut presque qualifier de primo-votants parfois, ou d'abstentionnistes réguliers. Il faudrait confirmer cela, mais dans les analyses qui ont été faites dans les jours qui ont suivi, j'ai vu cela plusieurs fois. Je trouve que ça fait partie un peu des points à son actif à elle que j'évoquais précédemment. C'est vrai que le fait aussi qu'elle ait confirmé son score alors qu'il y avait plus de votants qu'aux élections de 2014, c'est encore un signe qu'elle se maintient très très bien, voire progresse. Après, bon, vous aurez toujours des gens déçus de la politique, et ça s'accentuera, qui n'iront pas chez elle. Mais je crois qu'il y a la question, votre deuxième question, les Gilets jaunes. Ce que je crains dans la bipolarisation actuelle, dont j'ai dit qu'il y avait un aspect sociologique, les classes populaires contre les classes aisées, même si c'est dans le détail un peu plus complexe. Ce que je crains, c'est qu'il y ait une souffrance sociale qui ne trouve absolument plus de débouchés sur la scène politique. Et donc, ça voudrait dire que même s'il est relativement conforté par son score, Emmanuel Macron, qui s'est par ailleurs dans son image, comme je l'ai dit aussi, droitisé depuis 2 ans, est face à lui, non pas des adversaires politiques dans des partis et des syndicats, mais une violence sporadique, finalement, ne se répercute pas pour plusieurs raisons sur le plan électoral. Qualitative, les gens ne se sentent pas bien avec les partis politiques, mais aussi quantitative. Les Gilets jaunes, c'est pas énormément de monde. Mais ils ont trouvé un moyen de se faire voir beaucoup, et ils ont suscité une vraie sympathie dans l'opinion. Après, ça pose la question de la conversion. Mais s'il n'y a pas de conversion dans le monde politique, je dirais classique et traditionnel, on va avoir des passages à l'acte violents, pas forcément par beaucoup de monde, mais des choses dont je ne vois pas bien comment elles s'arrêteraient dans les prochaines années.
Et cette conversion, on aurait pu penser qu'elle se fasse logiquement du côté des partis de gauche. Il y avait quand même une offre pléthorique pour ces élections européennes. Comment est-ce qu'on peut expliquer, Coralie Delhomme et Stéphane Robert, que ce mouvement social, mouvement d'une ampleur quand même extrêmement importante, c'était le plus important depuis les grèves de 1995, il ne s'était pas passé de choses aussi fortes depuis plus d'une vingtaine d'années, depuis 25 ans, comment se fait-il que cette conversion n'ait pas profité aux partis de gauche?
Ben parce que tout simplement, il y a une certaine proportion des Gilets jaunes qui a dû s'abstenir, et puis il y en a une autre proportion qui a dû voter Rassemblement National. J'ai noté.
Oui, mais
des
si on s'abstient, c'est quoi? C'est qu'on ne trouve pas de réponse dans ses préoccupations, ni dans la France Insoumise, ni au Parti Socialiste, ni chez Benoît Hamon.
Qu'on est dégoûté de la politique, ou alors qu'on considère que l'Europe, on n'y comprend rien, ou alors que ce sont des européennes et que donc c'est sans impact. Il peut y avoir un certain nombre de raisons. En tout cas, je vous donne ces chiffres parce qu'ils sont édifiants, que j'ai trouvés chez PollingVox, qui est un institut de sondage. Ces chiffres disent 71% des électeurs de Bardella soutenaient les Gilets jaunes, 91% des électeurs de La République En Marche étaient contre les Gilets jaunes. Donc ça montre bien quand même une polarisation de classe qui est en effet assez frappante. Avec le risque, c'est qu'effectivement, les gens qui votent Rassemblement National, en réalité, quand on regarde point par point le programme du Front National, c'est pas véritablement un parti social. Et c'est le problème, c'est que voilà, je suis pas sûr que les gens qui, si jamais ce parti arrivait au pouvoir, je suis pas sûr que les gens soient pleinement satisfaits par le résultat.
Stéphane Lambert.
Moi, je pense qu'il faut revenir au titre de votre émission. Il faut se poser cette question, est-ce que le clivage droite-gauche est encore pertinent et surtout structurant de la vie politique française?
C'était pas le titre, mais c'est pas grave.
Vous êtes parti un peu de cette idée-là, mais et je crois que il faut non pas enlever nos lunettes avec ce clivage droite-gauche, mais rajouter par-dessus d'autres lunettes. Le clivage droite-gauche, il existe encore. Mais est-ce qu'il est structurant aujourd'hui la vie politique française? Manifestement, au vu des deux élections passées, présidentielle 2017 et européenne 2019, ça n'est plus celui qui domine. Ce n'est plus le clivage structurant. Et si vous voulez, on commence à avoir un certain nombre d'explications par un certain nombre de chercheurs qui font des travaux. Il y a le livre de Jérôme Fourquet qui est sorti, L'Archipel français, récemment, qui reprend ce que dit un peu Marcel Gaucher, qui reprend aussi ce que dit Emmanuel Todd et Hervé Lebras, sur le fait que qu'est-ce qui finalement organisait la vie de notre société en un clivage comme ça, droite-gauche. On avait d'un côté la religion conservatrice, et on avait de l'autre côté la République laïcarde d'inspiration communiste, hein, d'inspiration très de gauche pour le coup, qui était incarnée il y a 50 ou 60 ans par Don Camillo et Pépone. Hein, c'était on avait le curé et le maire communiste, et ça c'est en train de disparaître. Enfin, il y a de moins en moins de catholiques conservateurs en France, et
en tout cas, ils ne votent plus pour le parti qui est censé être le leur, c'est les Républicains. En tout cas, beaucoup moins. C'est ce qu'on a vu justement dans
les valeurs à laquelle ils se rattachent les Républicains, surtout les valeurs catholiques, morales, conservatrices sur le plan moral et sociétal, et puis libérales sur le plan économique, hein, qui peut être structuré par la religion. C'est en train non pas de disparaître, mais de s'atténuer très fortement. Et de l'autre côté, l'idée communiste de la société, d'organisation égalitaire de la société, de la même façon, elle a vécu avec la chute du bloc communiste autour de l'URSS. Et finalement, ça devient de moins en moins structurant. Et donc, notre vie politique française, nos institutions et notre système électoral, qui organise forcément une bipolarisation, cherche une autre façon de se bipolariser. Et on a des électeurs qui sont, en plus aujourd'hui, avec une individualisation de la société de plus en plus volatile. Ils vont plus voter, ils vont plus adhérer à un parti, vous avez de moins en moins de militants. Ils vont voter pour une cause. C'est d'ailleurs peut-être ce qui explique en partie le vote écologiste. Tout à coup, ça devient préoccupant. Je vote pour eux. Je suis pas forcément de droite, je suis pas forcément de gauche, je vote pour eux parce que c'est important, et je pense que c'est important à ce moment-là, au moment où je le fais, de voter pour eux. Et alors, ce qui se passe, c'est que le fait que Emmanuel Macron au centre attrape tout comme ça, à droite et à gauche de son côté, et puis en face, on a aujourd'hui une formation politique à l'origine d'extrême droite, et puis qui s'est un peu dédiabolisée comme le Rassemblement National, qui attrape un vote populiste, souverainiste, mais ça aurait pu aller de l'autre côté finalement. Et on a un électorat populaire qui va voter pour cette formation politique, qui peut voter pour quelque chose d'autre. C'est là où je rejoins ce que disait Géraldine Mühlmann tout à l'heure, c'est que finalement on a quelque chose qui est en train de se structurer avec un bloc central qui est à peu près stable, et puis autour des gens qui se sentent plus représentés, qui savent pas trop où aller, et ça peut donner un vote pour quelque chose, on ne sait pas trop quoi. Il n'y a pas véritablement aujourd'hui de formation politique qui incarne l'alternative. Et si c'est le Rassemblement National, potentiellement ça peut être dangereux quand même.
Le Rassemblement National, c'est un parti de droite, droite radicale, extrême droite, à chacun de voir comment on veut le nommer. On a vu dans les sondages sortis des urnes qui là sont des sondages fiables, contrairement aux intentions de vote, parce que ça peut évidemment toujours bouger, qu'il y avait de grandes migrations qui s'étaient opérées dans ces élections européennes dans le socle électoral des Républicains. Une partie est allée justement au Rassemblement National, une partie importante est allée du côté de La République En Marche, ce qui a contribué à droitiser également cette formation politique. Est-ce que ça signifie aussi peut-être, alors si on garde nos anciennes lunettes, Géraldine Mühlmann, qu'on est dans une société qui est de plus en plus à droite aujourd'hui, une société politique qui est de plus en plus à droite, sans véritablement de parti pour représenter finalement cette famille politique. Les Républicains ne sont pas morts, mais en fait, ils sont considérablement affaiblis.
Moi, je trouve que, de toute façon, c'est pas un scoop que mondialement, on est dans un moment idéologiquement moins interventionniste du point de vue des puissances publiques pour lutter contre les inégalités, pour essayer de dire ce qu'on met dans gauche, quoi, ou social-démocratie, on va dire. Parce que moi, je pense que la question du communisme, elle est plus du tout au centre, au point d'ailleurs que c'est pas le parti communiste d'aujourd'hui n'a plus rien à voir, mais rien, avec ce qu'il était encore dans les années 70, jour et la nuit. Il travaille, le jeune, il était très jeune, celui qui a porté la liste communiste, Yann Brossat, il travaille avec Anne Hidalgo et plein de gens de la mairie de Paris. Enfin, on est dans un monde qui, au fond, est celui de la social-démocratie, mais complètement éclaté. Donc, les idées de gauche social-démocrate ne vont pas bien. pour une raison, à mon avis, qui est assez simple, mais qui est horrible, c'est qu'en fait, on ne sait pas bien comment agir pour que le capitalisme soit bien brutal. Tout le monde voudrait bien que le capitalisme soit bien brutal, mais on n'a plus du tout de recettes. On sent bien que c'est pas au niveau national, mais comment en faire, comment faire sans réduire la production, la croissance. Enfin, on est dans une impasse d'idées et, par ailleurs, il y a une montée en puissance de certaines idées droites, soit libérales, soit identitaristes, anti-immigration, etc., qui vont même, il faut quand même le dire, séduire maintenant dans une partie de la gauche radicale. J'en ai assez parlé la dernière fois dans mon intervention ici. Donc oui, je suis d'accord avec vous, il y a une droitisation, mais mondiale, historique de notre moment. Mais par ailleurs, c'est quand même troublant de voir que nous avons au Parti communiste, dans les listes en présence, une partie de ce que disent les écologistes, la liste PS Place Publique, et même la France Insoumise, des convergences de programmes incroyables. En vrai, ils sont tous écolos. Vous étiez écolo, c'était pas la peine de voter que écolo, vous pouviez voter un tas de choses, ça faisait partie de la sensibilité écologiste. Et il y avait un programme, disons, qui ressemblait à de la social-démocratie, un peu interventionniste sur certains points. Mais l'éthique, au sens de l'éthos de tous ces milieux militants et même des votants, est complètement différent. Il n'y a pas de rapport. Ah oui, j'ai évidemment oublié Benoît Hamon, je m'en excuse, c'est bizarre, on oublie toujours Benoît Hamon, le pauvre.
C'est mis en retrait, là.
Ça fait beaucoup de monde, quand vous ajoutez d'ailleurs, c'est pas si mauvais, je veux dire, il existe encore des gens qui sont, je dirais, sociodémocrates dans ce pays, même si encore une fois, sur la liste écologiste, il n'y avait pas que ça. Il y avait
ça aussi... dépend ce que vous ajoutez, hein. Vous mettez quoi dans votre tradition pour la social-démocratie?
Je pense qu'il y a eu un vote. Si vous mettez ensemble
vous
le
mettez
PC,
les écolos justement, enfin avec
une partie des écolos certainement, Benoît Hamon, le PC qui est très petit, je suis bien d'accord, le PS Place Publique. Enfin, si vous additionnez, c'est pas mal. On est presque au niveau du score de Marine Le Pen. On est au-dessus de 20. Mais alors pour le coup, je suis très pessimiste sur la capacité de fédérer ces groupes. Très très pessimiste, pour des raisons qui ne tiennent pas au programme, mais aux ethos de tous ces militants.
Mais moi j'aimerais justement savoir dans quelle mesure on peut ou pas additionner tout ou partie des voix recueillies par les écologistes et par la liste qui est arrivée troisième, parce que c'était pas la seule, hein. Il y en avait une qui était également menée par Dominique Bourg, donc celle de Yannick Jadot, 12,8% des voix. Comment est-ce qu'on peut le situer aujourd'hui, cette force écologiste, Coralie Delhomme, dans l'échiquier politique? C'est-à-dire, c'est quelque chose à part, c'est un apport de voix, c'est une force qui peut compter, c'est-à-dire qui peut devenir totalement autonome et compter uniquement pour elle-même.
Je peux revenir une seconde sur la droitisation?
Une seconde alors, et puis après 10 secondes sur les écologistes, qui sont quand même aussi un des éléments marquants de ces
Concernant la droitisation, elle n'est pas forcément là où on croit qu'elle est. Enfin, pour moi, le Parti de l'Ordre, c'est devenu La République En Marche, et qui a été rejoint précisément pour cette raison par d'anciens électeurs de François Fillon, en réalité. Et quant à la montée des populistes, des populistes de droite, et c'est pas qu'en France, hein, c'est pas que le Front National, les grands vainqueurs de l'élection en Europe, c'est Orban, c'est Farage, c'est Salvini, grosso modo. Et ça me semble être non pas un discours qui témoigne d'une droitisation, mais qui me semble relever d'un désir de réappropriation, c'est-à-dire d'avoir prise sur la marche des choses. Ce sont des partis ou des leaders qui tiennent un discours de souveraineté et qui semblent dire « oui, nous pouvons agir sur les cours des choses, oui, nous pouvons agir sur l'économie, oui, on peut dompter la mondialisation ». Il y a cette partie-là du discours qui est importante, celui de la souveraineté, et il y a l'autre partie du discours, ce sont des dirigeants politiques qui tiennent un discours qui disent « oui, vous avez le droit d'être ce que vous êtes ». C'est-à-dire que on ne demande pas aux gens ces partis ne demandent plus aux gens d'accepter de se fondre dans une espèce de monde liquide, mais d'avoir le droit d'être ce qu'ils sont, français, italiens, britanniques.
Et du coup, vous avez aussi les écologistes qui disent peut-être pas « oui, nous pouvons », mais « oui, nous devons agir politiquement ». Et les questions environnementales, le réchauffement climatique doivent surpasser toutes les autres considérations. En tout cas, toutes les décisions politiques doivent dépendre aujourd'hui de ces considérations-là. Est-ce que ça fait pour vous, Coralie Delhomme, et je pose la même question à Gérald Mulman et à Stéphane Robert, de cette force électorale aujourd'hui, une force qui a vocation à rester autonome, c'est-à-dire à gouverner par elle-même, ou bien à comment dire, ou bien une idée qui va continuer à se diffuser aussi bien à droite, à gauche, où tout le monde pourra revendiquer, comme le disait Géraldine, le fait d'être soi-même écologiste.
Il me semble que c'est plutôt une idée qui a vocation à se diffuser un peu partout. L'écologie, c'est important, mais ça peut pas être l'alpha et l'oméga d'un projet de société. Il y a des tas d'autres choses dont il est nécessaire de parler. Voilà, les sujets régaliens, l'économie. L'écologie ne fait pas un programme, en fait, selon moi.
Vous êtes d'accord, Stéphane Lambert ?
Oui. Et puis déjà, il faut voir que les écologistes ont toujours fait à plusieurs reprises déjà fait des bons scores aux européennes. Ça s'est jamais traduit par la suite. Ils sont toujours restés un parti supplétif qu'on venait chercher en tant qu'allié. Donc, est-ce que ça va se traduire par quelque chose par la suite ? Ça, c'est beaucoup trop tôt pour le dire.
Mais le fait que ça soit passé comme ça par le passé, est-ce que ça signifie forcément qu'aujourd'hui, peut-être que tirant les leçons de ce type d'échec, en tout cas de n'avoir été, comme vous le dites, que des supplétifs, peut-être que justement un parti comme Europe Écologie Les Verts, et c'était d'ailleurs la stratégie de Yannick Jadot, c'était de dire on fait pas d'alliance parce que oui, on veut compter par nous-mêmes.
Oui. Voilà. Puis il s'est pas inscrit. Le problème des écologistes qui ont toujours eu les écologistes français pour exister véritablement électoralement, c'est qu'ils étaient d'abord de gauche avant d'être écolo. Regardez, vous regardez les Verts allemands, ils sont d'abord écolo. Et ils passent des alliances en fonction des circonstances avec la CDU à droite ou avec le SPD à gauche. Ça leur pose pas de problème. En France, non, les écolos, ils sont d'abord de gauche et c'est ce qui les perd en quelque sorte puisqu'ils sont pas d'abord des défenseurs de l'écologie. Là, Jadot, il a fait, un peu comme Cohn-Bendit d'ailleurs en 2009, le choix de dire je ne suis ni de droite ni de gauche, je prêche d'abord pour ma famille et ma famille, c'est la défense de l'environnement. Et c'est ça qu'on va vendre aux électeurs, et résultat, ça fait 13%.
C'est vous tout à l'heure, Géraldine Mulban, qui parliez d'ambiguïté de la part des écologistes, ou
surtout
c'était Coralie Delhomme, je crois que c'était vous.
Ouais. Depuis le vote, c'est vrai que j'étais surprise par certaines déclarations de Yannick Jadot. Je trouve tout de même que dans l'histoire du vote écologiste et des partis écologistes, ce qu'a été la gauche plurielle, c'est tout de même ce qui leur a permis, à un moment donné, d'avoir le pouvoir et de faire un certain nombre de choses. Bon. Ensuite, idéologiquement, c'était quand même, comme vous venez de le rappeler, un tropisme naturel, la gauche, pour le mouvement écologiste français. La déclaration était très ferme de Yannick Jadot. La gauche plurielle, c'est fini, je n'en veux pas, ça ne m'intéresse pas. Ne comptez pas sur moi pour fédérer, disons, les derniers sociodémocrates qui, comme je l'ai dit juste avant, ne sont pas si réduits. Enfin, si on les additionne, on peut quand même imaginer de les fédérer. Alors que je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont voté pour lui, pour sa liste, dans cet esprit, justement. Je ne sais pas où il en est de ces signes faits à Emmanuel Macron, parce qu'on a aussi dit ça, mais c'est le problème des rumeurs post-vote. Est-ce qu'il va faire signe à Emmanuel Macron? Est-ce qu'ils vont travailler ensemble, etc.? Bon, ce que je pense, c'est que quoi qu'il fasse, il va décevoir une partie de ces 12,8%, parce que dedans, vous avez beaucoup de gens de gauche qui n'ont aucune envie d'aller voter pour la liste qui représente le socialiste français maintenant, en place publique. Bon, ils n'ont pas été convaincus. Vous avez des gens de France Insoumise qui sont partis et qui en ont assez de ce mouvement. Et puis vous avez aussi des gens chez les Républicains qui ont dû voter certainement pour les écolos parce qu'ils ne se retrouvaient pas dans M. Bellamy et ils n'étaient pas satisfaits d'Emmanuel Macron.
Ils sont très peu nombreux. Alors, s'agissant en tout cas des électeurs qui avaient voté pour François Fillon, ça ne fait peut-être pas tous les électeurs les Républicains, mais au premier tour en 2017, 4% auraient voté pour la liste Europe Écologie Les Verts, une liste qui quand même recueille plutôt une majorité de voix à gauche, effectivement.
Voilà. Et donc, quand il fait ces déclarations,
qu'il n'y avait pas de candidat écolo en 2017.
Voilà. Et donc je pense que c'est problématique que Yannick Jadot fasse des déclarations aussi fermes par rapport à ceux qui ont voté pour lui et par rapport aux espoirs que certains conçoivent. Moi, je suis plus sceptique de la conversion de ce vote sur le plan national dans quelques années. Est-ce que ce vote va devenir à un moment sans suite sur le plan national? Je pense que avec les déclarations qu'il fait, le risque est encore plus grand. Ce n'est pas en train de devenir un parti de la gauche social-démocrate en France.
Merci Géraldine Mulman, Coralie Delhomme et Stéphane Robert. Émission comme chaque soir que vous allez pouvoir réécouter sur notre site franceculture.fr, la page du Grain à Moon. Merci à l'équipe du Grain, Antoine Dulster, Amélie Perrault, Camille Fouchard, Léa Capuano et Cyril Marchand. Émission réalisée par Perret Legras avec à la prise de son Julie Garraud, Bruno Mourlan et Charles Bouticourt. Dans un instant, vous allez retrouver la dispute avec Lucille Como. Rebonsoir Lucille.
Rebonsoir et merci Hervé Gardette. Quant à vous, on vous retrouve demain pour Politique et vous allez nous donner le programme de l'émission.
Le titre en tout cas, Requiem pour la droite catho. Nous serons en compagnie de la sociologue Céline Béraud.